Le journal Claire Flochel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'Allemande von der Leyen, proposée à la Commission européenne par les 28, mais qui a seulement 15 jours pour séduire aussi les eurodéputés. Elle a naturellement choisi le Parlement à Strasbourg pour sa première visite en tant que candidate. Cédric Villani fera un excellent maire. Les mots sont signés Mounir Majoubi. L'ancien secrétaire d'État se retire de la course à l'investiture de LREM en vue des élections municipales de l'an prochain à Paris, au profit du député et mathématicien. Stéphane Robert nous expliquera pourquoi.
La fête nationale, c'est aujourd'hui aux États-Unis, un 4 juillet un peu particulier cette année pour les Américains.
Il y aura un défilé aérien et des chars dans les rues de Washington à l'image de notre 14 juillet. Vladimir Poutine au Vatican, c'est la troisième rencontre entre le président russe et le pape François qui va plaider pour la paix en Syrie, notamment dans la province d'Idlib, dernier bastion rebelle bombardé par Damas et Moscou. À peine choisie, la voilà déjà en campagne. Ursula von der Leyen, dans les couloirs du Parlement de Strasbourg hier soir, après sa désignation par les dirigeants des 28 pour devenir la présidente de la Commission européenne. La ministre allemande doit maintenant convaincre une majorité d'eurodéputés au Parlement, puisque ce sont eux qui valideront dans 2 semaines sa prise de poste. Et en réalité, ce n'est pas gagné, Rosalie Lafarge.
Il lui faut 376 voix pour dans 15 jours. Sans ça, Ursula von der Leyen peut dire au revoir à la Commission européenne sans même avoir eu le temps de lui dire bonjour. Et manifestement, ce n'est pas acquis à entendre Pierre Larouturouche et les sociodémocrates.
On nous demande de voter pour Tartempion ou Tartemuche, mais on ne sait pas du tout ce que Tartempion ou Tartemuche vont faire pour la vie quotidienne et pour l'avenir de nos citoyens. Eh bien moi, avec des dizaines de sociodémocrates et autres, on va faire un bras de fer. Et s'il faut dire non dans 15 jours, on dira non, non pas pour casser l'Europe, mais parce qu'on veut une Europe qui change radicalement.
Et pour ça, pour que l'Europe change, Thierry Mariani au Rassemblement National refuse de donner les clés à l'Allemagne.
Moi je suis inquiet de voir un président de la Commission allemand, parce que quand on regarde les postes de direction dans tous les services importants, c'est des Allemands. J'adore les Allemands, attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais il y a un moment où il ne faut pas qu'un pays écrase tous les autres.
Il y a surtout un moment où il faut s'attacher au fond et pas seulement à la forme, insiste Stéphane Séjourné, élu de la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau.
Il ne faut pas revenir aux anciennes méthodes. On avait dit justement que... on mettait cette mandature sous le signe plutôt des idées que des hommes. Ça a mal commencé puisqu'il y a eu toute une bataille autour des hommes. Maintenant, il faut revenir aussi aux idées et aux programmes.
Finalement, pour l'instant, il n'y a guère que chez les LR qu'on trouve des heureux, mais des heureux inquiets. Nadine Morano, par exemple.
Nous avons gagné ça. Pour l'instant, on n'en est pas encore au vote final au Parlement européen.
Après avoir rencontré les élus du PPE hier, Ursula von der Leyen devrait enchaîner les rendez-vous avec les autres eurodéputés dans l'espoir de s'en sortir la tête haute dans 2 semaines.
Rosalie Lafarge, envoyée spéciale de France Culture au Parlement de Strasbourg. Il a quitté le gouvernement il y a 3 mois pour se consacrer à la campagne des municipales à Paris. Pourtant, Mounir Majoubi jette l'éponge. L'ancien secrétaire d'État au numérique retire sa candidature à l'investiture de La République En Marche. Il apporte même son soutien à Cédric Villani. Le député et mathématicien apparaît donc désormais comme le principal rival de Benjamin Griveaux, l'ex-porte-parole du gouvernement. Stéphane Robert.
À quelques jours de l'audition des candidats à la candidature et de la décision de la commission d'investiture, 2 favoris se détachent pour décrocher le label La République En Marche en vue des élections municipales à Paris. D'un côté, l'ex-porte-parole du gouvernement et ami d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux. De l'autre, le député et mathématicien Cédric Villani, récompensé par la médaille Fields en 2010. Un sondage BVA, publié le 20 juin dernier, les plaçait au coude à coude s'ils étaient candidats, à 25% d'intention de vote chacun, 4 points au-dessus de ce qu'obtiendrait la maire sortante, Anne Hidalgo. Selon cette même enquête, l'ex-secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, apparaissait distancé à 22%. C'est la raison pour laquelle il a décidé hier de rallier le candidat dont il se sent le plus proche, Cédric Villani, renforçant ainsi la position de ce dernier parmi les favoris. Prenant acte de ce ralliement, Benjamin Griveaux a rappelé qu'il avait, lui, le soutien d'un sénateur parisien, Julien Bargeton, de 2 députés, Sylvain Maillard, Olivia Grégoire, et de 2 présidents de groupe au Conseil de Paris. Pour faire monter un peu plus encore la pression, Cédric Villani tiendra un meeting ce soir dans un théâtre parisien. Même s'il y a encore officiellement 5 candidats, c'est donc un duel qui semble s'installer pour l'investiture du candidat En Marche à Paris. Duel qui devrait être tranché en milieu de semaine prochaine. Enfin, c'est ce qu'on espère, commente prudemment un membre éminent de la commission d'investiture.
Précision signée Stéphane Robert.
8h05, la suite de votre journal Claire Flochel. Améliorer les conditions de travail des femmes de chambre, c'est l'ambition de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, recevait hier les prestataires.
Car de plus en plus d'hôtels sous-traitent le ménage à des sociétés externes avec des conditions de travail extrêmement difficiles et des heures supplémentaires non payées. Les syndicats non conviés à cette réunion ont donc fait entendre leur voix hier près de Matignon à Paris. Une trentaine de manifestants rassemblés pour défendre la cause des femmes de chambre. Les trois quarts des agents de propreté en France sont en effet des femmes. Hélène Fromanti.
Ces femmes de l'ombre, nous ne les verrons pas lors du rassemblement. Difficile pour elles de se libérer en plein travail, disent les manifestants. Pour autant, Ouria Métia, gouvernante dans un grand palace parisien, les connaît bien. Elle en supervise une trentaine et voit leur souffrance au quotidien.
Pour les femmes de chambre qui ont dépassé les 45, 50 ans, ils ont 50 ans, ils sont usés, ils sont fatigués. C'est des 14 difficiles, c'est des grandes chambres. Il y a beaucoup de choses à faire, à mettre dans les chambres. La qualité, la rapidité, la quantité et les clients sont exigeants, très exigeants parce que nous, on n'a pas le mot à dire.
Des cadences infernales jusqu'à 5 chambres par heure, des horaires décalés, du travail fractionné, tout ça pour un petit SMIC, sans 13e mois, ni prime. Des méthodes de voyous assurent la CGT-HPE, les sous-traitants cherchant à gagner leur vie sur le dos des femmes de ménage. Tidziri Kandi fait partie du syndicat.
Ça peut aller très très loin. Ça peut être la privation des salariés de la sous-traitance de manger à la cafétéria avec les salariés de la boîte. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est des techniques de division des travailleurs et c'est le fait de la sous-traitance. Je veux dire, le choix patronal de sous-traiter n'est pas anodin.
Alors, il faut tout simplement mettre un terme à la sous-traitance, assure Claude Lévy, le fondateur de la CGT-HPE.
Historiquement, les femmes de chambre étaient en fait en interne dans les hôtels, elles étaient salariées à part entière des hôtels. Aujourd'hui, on développe de plus en plus la sous-traitance et ça génère des conditions de travail et de rémunération détestables pour ces femmes de chambre.
En revanche, pour Marlène Schiappa, la sous-traitance ne semble pas devoir être remise en cause. Certainement une manière pour la secrétaire d'État de ne pas couper court au dialogue avec les représentants des entreprises du secteur.
Reportage signé Hélène Fromanti. Et Marlène Schiappa devrait présenter un panel de mesures d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui la fête de l'indépendance, un 4 juillet aux allures de meeting pour Donald Trump en campagne pour sa réélection. Le président américain prononcera ce soir un grand discours sur le National Mall à Washington où quelques chars seront de la partie ainsi qu'un défilé aérien. Donald Trump s'est en fait inspiré de ce qui se fait en France. Grégory Phillips.
En septembre 2017, Donald Trump confie à Emmanuel Macron qu'il a été très impressionné par le défilé militaire du 14 juillet, auquel il vient d'assister 2 mois plus tôt à Paris. L'idée germe alors dans le cerveau du président américain d'une parade militaire à Washington, mais encore plus grande pour Veterans Day. Il y renoncera face au coût d'une telle manifestation, environ 100 millions de dollars. Mais pour cette fête de l'indépendance, il y aura bien quelques chars déployés dans les rues de Washington, un défilé aérien et un discours de Trump sur les marches du mémorial de Lincoln, à l'endroit même où Martin Luther King, en 1963, avait prononcé son fameux « I have a dream ». L'opposition s'étrangle, à l'image du candidat à l'investiture démocrate, Julian Castro, hier sur CBS.
Quand je vois que le service des parcs nationaux va dépenser 2,5 millions de dollars pour permettre à des chars de circuler sur le mall à Washington, tout ça pour gonfler l'ego du président, quelle dépense inutile.
What a waste of money. Donald Trump promet que cet hommage à l'Amérique sera le spectacle d'une vie, mais ses opposants manifesteront aussi aujourd'hui contre la mainmise du président sur une fête de l'indépendance traditionnellement apolitique et transpartisane.
Les États-Unis qui ont bloqué sans que l'on sache pourquoi hier soir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution qui devait condamner cette attaque, ce raid aérien sur un camp de migrants mardi soir, 44 morts et plus de 130 blessés dans les faubourgs de Tripoli en Libye. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis le début de l'offensive lancée il y a 3 mois par les forces du maréchal Haftar pour s'emparer de la capitale où se trouve le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. L'émissaire de l'ONU pour la Libye lui dénonce un crime de guerre.
Il y a les civils qui prennent la route pour fuir la guerre et arrivent jusqu'en Libye. Et puis il y a les autres qui restent coincés, assiégés. Par exemple en Syrie, dans la province d'Idlib, dernier bastion rebelle dans le nord du pays où vivent 3,5 millions de personnes.
Depuis fin avril, Damas et son allié Moscou ont repris leur bombardement. Aujourd'hui, c'est le pape qui essaie d'intervenir pour réclamer la paix. François reçoit Vladimir Poutine au Vatican. Et à Idlib, les civils attendent beaucoup du souverain pontife. Depuis Beyrouth au Liban, les précisions d'Aurélien Colli.
Pape François, nos hôpitaux sont bombardés. Pape François, nos enfants sont tués. Pape François, nos maisons sont détruites. Des appels à l'aide, imprimés sur des feuilles de papier, brandis par des civils, avec la mention « Dites-le à Poutine ». Nous demandons au pape de le persuader de cesser les bombardements. Nous sommes des civils innocents, nous n'avons rien à voir avec le conflit, explique Anine, jointe par les réseaux sociaux à Idlib. Le pape a de l'influence sur Poutine, il incarne l'autorité dans la religion chrétienne. Sa parole de paix doit être respectée, insiste la jeune Syrienne, qui tient l'une de ses pancartes sur les photos relayées sur Internet. Elle décrit des civils toujours bloqués sous les bombardements dans le sud de la province d'Idlib, où l'armée du régime syrien et l'aviation russe pilonnent les rebelles djihadistes et modérés depuis fin avril. Et dans la partie nord, des dizaines de milliers de familles qui ont réussi à fuir, mais qui s'entassent dans des camps surpeuplés ou dans les champs, avec des conditions sanitaires qui ne cessent de se détériorer.
Aurélien Colli. Le réveil du volcan Stromboli en Italie provoquant des scènes de panique hier sur l'île, des habitants qui fuient leur maison, des touristes qui se jettent à la mer. Un randonneur a perdu la vie, éruption violente qui ne pouvait pas être anticipée, estiment les spécialistes. Le Sahel au cœur d'un sommet qui se tient à Paris aujourd'hui et demain. La France va tenter de mobiliser les grands pays industrialisés en faveur d'une région qui cumule tous les maux. Pauvreté, terrorisme, réchauffement climatique. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, réunit à cette occasion ses homologues du G7 et ceux du G5, Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Une réunion inédite pour obtenir plus de moyens pour mener des actions de développement durable dans une zone minée par la pauvreté et l'insécurité. Exemple à Ménaka, au nord du Mali, où s'est rendu notre envoyé spécial Omar Waman.
Salam alaikum.
Escorté de très près par les soldats français de la force Barkhane, le gouverneur de Ménaka, Daouda Maïga, arpente une ville minée par la pauvreté. Ici, l'État, c'est lui, mais un État faible, obligé de composer avec des ex-rebelles qui n'ont pas déposé leurs armes, contrairement à l'accord conclu avec le pouvoir central.
Les groupes armés utilisent des soldats sans salaire, et quand on ne peut pas payer une armée, c'est difficile de les tenir en laisse, quoi.
Des bandes armées qui profitent du chaos pour se livrer aux raquettes sur une population sans défense. Zainaba, une maman de 5 enfants.
On veut la paix, la sécurité. On ne dort pas bien, on veut la paix.
Une paix qui passe par le désarmement de ces groupes, mais aussi par des projets humanitaires comme la construction d'un nouveau marché ou encore de centres de santé, des chantiers financés par l'AFD. L'Agence française de développement, son directeur régional, Philippe Chedan.
La tâche est immense, mais cette aide n'est qu'un processus d'accompagnement de dynamiques qui doivent être pilotées par des acteurs nationaux, sous-régionaux et locaux.
Et l'objectif est ambitieux, parvenir à un développement durable pour empêcher les djihadistes de gagner du terrain.
Omar Waman, envoyé spécial au Mali pour France Culture. La culture avec Avignon, comme tous les ans, transformée en théâtre géant. 73e édition du Festival d'Avignon, placée cette année sous le signe de l'épopée. Référence à l'Odyssée d'Ulysse, comme à celle des migrants en Méditerranée. Emmanuel Béart, Jacques Weber et Denis Podalydès ouvrent ce soir le bal dans la cour d'honneur du Palais des Papes avec Architecture, la création de l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert. Ça, c'est pour le in. Mais Avignon, c'est aussi le off, avec des représentations par milliers jusqu'au 23 juillet. Les explications de François de Mazières, créateur il y a 23 ans du festival de théâtre Le Mois Molière et maire de Versailles.
Vous avez Culture du In, qui est un théâtre subventionné, qui est un théâtre qui a des moyens, qui est un théâtre essentiel et qui se pose beaucoup plus la question du rapport au politique, du rôle du politique. Et c'est normal puisqu'il est subventionné. Puis vous avez Culture du Off, qui est la culture qui est celle que je défends ici au Mois Molière, qui est tout à fait différente. Ce sont des gens qui vivent avec très petits moyens, qui prennent des risques financiers permanents. Et là, si vous voulez, la question finalement du message politique et autres, elle est tout à fait secondaire, parce que ce qui est essentiel, c'est ce partage avec le public, c'est la réussite de ce partage avec le public. Les deux sont complémentaires.
François de Mazière, créateur du festival de théâtre Le Mois Molière et maire de Versailles. Soleil et chaleur au programme de la météo de ce jeudi. Météo France prévoit également quelques orages sur le relief pyrénéen, le massif central et la Corse. Les températures ce matin s'échelonnent entre 9-10 degrés au nord et jusqu'à 20 degrés sur le sud du pays, voire 20 à 24 degrés sur les régions méditerranéennes.